Michel Foucault, Gilles Deleuze, Michel Serres, Jacques Derrida. L'expérience tournera court, les philosophes quitteront un à un le navire agité de Vincennes, mais Robert Castel trouvera dans cette expérience matière à renforcer son indépendance et son goût pour l'analyse qui ne se conforme pas à la pensée dominante du moment. Consacrant depuis une quinzaine d'années l'essentiel de ses travaux à ce qu'on a successivement appelé la nouvelle pauvreté, puis l'exclusion, cet ermite de la sociologie est un maître pour le cercle étroit des spécialistes de l'histoire du travail. Mais depuis la publication en 1995 des Métamorphoses de la question sociale, il touche un public plus large. Ce discret, qui professe une nouvelle façon de penser notre société, est obsédé par l'actualisation du compromis social dans les formes nouvelles d'organisation du travail. Robert Castel dédie son travail à la mémoire de ses parents et à celles et à ceux auxquels un avenir meilleur a été refusé. Monsieur Castel.
Je vous remercie. Je suis tenté de partir de la modernité et, si j'ose dire, de la noblesse du contrat. La prééminence des rapports contractuels sur les rapports de subordination, l'idée que la société repose sur des contrats passé entre ses membres et non sur les liens de la coutume ou de la filiation ou la dépendance à l'égard d'une transcendance. Bon, c'est l'affirmation centrale de la philosophie des Lumières, des premiers libéraux et des principaux acteurs de la Révolution française. La référence au contrat, c'est une idée progressiste par excellence et c'est en son nom qu'a été menée la lutte contre l'ancienne société, comme on disait à l'époque, les privilèges, les inégalités fondées sur la naissance et sur la tradition. Et une société tout entière régie par des contrats, c'est le rêve ou l'utopie d'une société constituée d'individus libres et égaux et ne sont pas dépendants d'une histoire ou d'un destin antérieur. Et c'est sans doute la plus belle incarnation de la démocratie. Et on pourrait sans doute dire que la grande crise ou la grande déception de la modernité, ça a été la prise de conscience progressive de l'impuissance du contrat à assurer un ordre social stable et équitable. Et pire encore, une conception purement contractuelle de la société porte des effets pervers profonds. Elle crée des inégalités et elle détruit des solidarités. Alors, je ne peux évidemment pas raconter cette histoire, mais esquisser très schématiquement comment elle s'est jouée dans le domaine du travail. Ce qui, à mon avis, illustre bien les limites du contrat et les énormes défis à relever pour rendre compatibles contrat et solidarité, c'est-à-dire les exigences portées par l'individu, qui sont de plus en plus prégnantes dans une société d'individus comme la nôtre, et les exigences de la solidarité qui marque la prééminence d'intérêts collectifs. Alors, à la période post-révolutionnaire, bon, comme la plupart des autres secteurs de la société, le travail moderne se recompose entièrement autour de la notion de contrat, hein, ce qui implique la suppression des anciennes formes de régulation collective du type corporatiste qui étaient fortement contraignantes pour les individus, mais qui comportait aussi des protections et des solidarités. Et ce sont désormais, comme on sait, deux individus, l'employeur et l'employé, qui contractent librement, entre guillemets, l'échange d'un travail contre un salaire. Bon, je peux ici aller très vite, car Marx n'a pas été le seul à dénoncer les effets profondément inégalitaires de ce contrat entre deux individus en principe égaux, mais pour lequel, à travers lequel l'un d'entre eux s'approprie le travail de l'autre en ne lui laissant en contrepartie qu'un salaire de survie. Et on pourrait dire qu'une grande partie de l'histoire du travail, depuis le début du XIXe siècle, a été celle du dépassement du caractère purement contractuel de la relation salariale et son remplacement par un statut du travailleur qui passe par son inscription dans des régulations collectives, hein, conventions collectives, réglementations collectives du droit du travail, régulations collectives de la protection sociale. L'individu travailleur acquiert des droits, il participe à des systèmes de solidarité parce qu'il bénéficie de garanties collectives. Et c'est le domaine du droit social qui se distingue du droit contractuel du code civil, précisément en ce qu'il prend en compte des intérêts collectifs qui correspondent à des exigences de solidarité. Alors, lorsqu'on dispose de très peu de temps, comme c'est mon cas, on risque toujours d'être caricatural, mais je crois qu'on pourrait longuement argumenter que la grande transformation, pour parler comme Polanyi, à laquelle on assiste depuis une vingtaine d'années dans le secteur du travail, mais aussi dans de nombreux autres secteurs de la vie sociale, c'est une décollectivisation ou une réindividualisation qui pousse l'individu et les relations contractuelles entre les individus sur le devant de la scène. Individualisation des tâches, des carrières professionnelles, des trajectoires de vie. Bon, l'individu est de plus en plus enjoint à faire des projets, à passer des contrats souvent limités dans le temps, en ayant la responsabilité de gérer lui-même les risques et les aléas qui découlent de cette mise en mobilité généralisée. Or, bon, ces transformations portent sans doute des effets profondément contrastés, parce que pour certains, elles sont positives, car ils peuvent être libérés des contraintes collectives qui pouvaient être très pesantes. Par exemple, l'organisation taylorienne du travail, et ils tirent bien leur épingle du jeu et sont mieux en mesure d'entreprendre, de prendre des initiatives, de se réaliser comme individu. Et c'est d'ailleurs ce type d'expérience qui est derrière la politique du MEDEF qui préconise précisément un retour de la loi au contrat. Mais c'est un point de vue en même temps unilatéral, partial et partiel, car d'autres individus, qui sont d'ailleurs sans doute les plus nombreux, sont les perdants de cette grande transformation, ce qui confirme ce que disait déjà Durkheim, que tout n'est pas contractuel dans le contrat, et que les individus qui passent contrat sont inégalement dotés en ressources, en supports, en capitaux de toutes sortes, comme aurait pu le dire Pierre Bourdieu, de sorte que certains perdent au jeu contractuel, et on comprend que ce soit surtout ceux qui tiraient leurs ressources et aussi leurs droits de leur participation à des solidarités collectives. Et cela signifie que le contrat par lui-même n'assure pas la solidarité sociale, et qu'il peut même casser les solidarités, de sorte que, comme je le disais, il y a un défi redoutable à relever, et je terminerai là-dessus. Comment concilier l'ordre du contrat qui correspond à la promotion de l'individu et l'exigence de solidarité qui renvoie à des ressources, des protections, des droits que l'individu tire de sa participation à des collectifs, et au premier chef à ce collectif par excellence qu'est la société, qui n'est pas une société avec un S majuscule, mais qui est le garant des relations d'interdépendance entre ses membres. C'est la société de semblables, pour citer par exemple Léon Bourgeois, enfin, qui fut l'un des penseurs de la Troisième République. Et Ce défi est d'autant plus redoutable qu'il y a, à mon avis, de l'irréversible dans ces transformations en cours qui vont dans le sens de l'individualisation contractuelle. Et je n'ai pas le temps d'essayer de dire en quel sens on pourrait chercher une conciliation entre ces deux exigences qui paraissent contradictoires, de la promotion de l'individu et du contrat d'une part, des interdépendances collectives de la solidarité sociale d'autre part. Mais en un sens, c'est une chance pour moi de n'avoir pas le temps, parce que c'est une question difficile, donc je n'aurai pas sans doute la capacité de traiter, et en tout cas j'espère qu'on pourra quand même en discuter. Merci.
Merci. Alors, Madame Geneviève Fraisse, historienne, agrégée de philosophie, directrice de recherche au CNRS, ancienne déléguée interministérielle aux droits de la femme et députée européenne. Elle était numéro 2 sur la liste de Robert Hue au renouvellement de 1999 au Parlement de Strasbourg. Fille du grand Paul Fraisse, chef de file de la psychologie expérimentale et d'une agrégée de lettres classiques spécialiste de Peggy et de Renan, elle a grandi parmi les intellectuels catholiques engagés de la revue Esprit. Flins, l'Odéon, la Sorbonne, Vincennes, elle a pris mai 68 de plein fouet et elle a été de tous les grands moments. Étudiante, Geneviève Fraisse a vite découvert la place inexistante faite à la pensée féminine dans la philosophie et la misogynie des plus grands, de Platon à Kant. C'est ainsi que, sans qu'elle y prenne garde, la question de la différence des sexes s'imposera au centre de son champ d'investigation. Militante du mouvement de libération des femmes, elle a fondé avec le philosophe Jacques Rancière la revue Les Révoltes Logiques, dont le beau titre est emprunté à Rimbaud. Elle a collaboré au Temps Moderne avec Sartre et Simone de Beauvoir. Elle n'a pas voulu enseigner, sauf une année, en 1974, dans le Nord, je crois. Elle préfère chercher. Entrée au CNRS au début des années 80, elle étudie la façon dont la représentation de la différence des sexes participe à l'histoire et se passionne pour deux champs parallèles, celui politique des inégalités et celui de l'exigence théorique. Auteur en 1995 d'un livre clé, La différence des sexes, elle est aussi l'historienne qui, la première, mit un terme au mythe de l'héroïne révolutionnaire et épingla la misogynie des fondateurs de la République. Explorant depuis 25 ans les chemins de traverse de la différence et de l'égalité des sexes, Geneviève Fraisse s'interroge dans un essai brillant sur les deux gouvernements, la famille et la cité, deux gouvernements qu'il est désormais nécessaire de penser ensemble, dit-elle, et qui sont au cœur de l'exposé qu'elle vous présente maintenant.
Merci, je ne m'attendais pas à une telle... Merci à Yves Michaud d'avoir fait tout ça, ce passage du populaire et du politique dans une même dynamique de communication. Au fond, pour être brève, je rappellerai l'origine de ce questionnement sur les deux gouvernements. Au milieu des années 90, on a à la fois, donc avant l'arrivée du gouvernement Jospin, on a à la fois la bataille pour la parité. La parité, c'est la participation des femmes à des lieux de pouvoir, c'est uniquement ça, donc la participation aux affaires de la cité. Et en même temps, monte ce combat pour le Pax, qui demande finalement une union et un contrat de solidarité entre deux personnes du même sexe dans l'espace privé. On ne pouvait pas, évidemment, avec ces deux éléments, se poser un certain nombre de questions sur le rapport entre le privé et le public. Or, jusqu'à Rousseau, on dit les deux gouvernements, gouvernement domestique et politique. Et puis c'est Rousseau, au livre 3, qui dit « c'est un sophisme ». Il balaye ça en une phrase, il faut se reporter au brouillon du contrat social pour trouver la démonstration de ce pourquoi c'est pour lui un sophisme, mais ça veut dire qu'on ne comparera plus le roi et le père. On ne passera plus de la figure du père à la figure du roi pour penser ce double gouvernement qui est le gouvernement domestique et le gouvernement politique. Vous pensez bien que c'est là qu'il faut rechercher les liens qui nous permettront de penser ensemble comment à la fois la parité et le Pax naissent et se débattent dans un même contexte de droit, alors, des homosexuels pour le Pax, mais aussi le droit des femmes et des sexes, à quoi ça renvoie nécessairement. Donc je voudrais, moi, revenir sur cette affaire des deux gouvernements. Non, Rousseau, pour construire le contrat social, évidemment, ça sera un des éléments de l'explication de ce que j'appelle, moi, la démocratie exclusive, non pas excluante, mais exclusive, qui va se mettre en place très peu d'années après ce contrat social. Alors, il dit qu'il faut dissocier. Donc, ça n'a rien à voir, ce qui se passe dans l'espace familial ou dans l'espace privé, avec ce qui se passe dans l'espace public et politique. Ça n'a rien à voir, à beaucoup d'explications que je vous épargne ce matin, puisque grâce au peu de temps qui m'est donné, mais ça a au moins une idée très simple, c'est qu'il n'est pas question, et Tocqueville va le dire tout de suite, dans la démocratie en Amérique, il n'est pas question de transférer les droits tels qu'on va se les représenter, contractuels, liés au consentement, qui supposent l'autonomie et la propriété de soi, il n'est pas question de le référer, d'en faire le même modèle pour l'espace domestique, qui est un espace de hiérarchie et de dépendance, qu'on ne mettra pas en cause, quoi qu'il en soit du modèle démocratique. Alors, ça devient très intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, moi je crois que c'est une des raisons pour lesquelles, contrairement aux apparences, on n'a pas du tout pensé la famille au XIXe siècle, et ça, je prendrai volontiers le temps ailleurs de le démontrer, mais aussi de ce qu'il était perceptible, et Tocqueville est d'une lucidité, comme d'habitude, extraordinaire, il était possible de se dire que les droits qu'on allait acquérir dans l'espace contractuel du lien social, civil et politique, c'était peut-être possible d'en inférer de ce modèle à ce qui se passe dans la famille. Mais là, plusieurs remarques. Premièrement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé sur 2 siècles. Et le Pax en est la figure ultime, c'est-à-dire d'accorder à chaque individu la reconnaissance de ses droits. Car une femme n'est pas propriétaire d'elle-même au XIXe siècle et elle va mettre, c'est toute une des facettes de l'histoire du féminisme et du combat des femmes pendant les 2 siècles de démocratie, c'est d'obtenir d'être propriétaire de soi et non pas dépendante de l'autre, à travers l'emploi et à travers l'ensemble des droits civils. Vous savez que c'est parce qu'elle n'a pas ses droits civils qu'on ne lui donnera pas la citoyenneté, ça c'est une chose. Il faut la totalité des droits civils pour être citoyen. La femme est dépendante d'un certain nombre de choses. Jusqu'à très récemment, il faut demander l'autorisation du mari jusqu'en 65 pour pouvoir toucher un salaire. C'était fictif pour beaucoup de femmes, bien entendu. Mais telle est la loi. Donc, ce système de non-propriété de soi, pour l'espace public comme pour l'espace privé, est typiquement ce qui s'est passé pour la question des femmes. Donc, on arrive à la fin du XXe siècle avec simplement l'acquisition du fait que chaque individu va pouvoir avoir sa propre volonté et être contractant, quel que soit l'espace. Alors, ça c'est une première chose. C'est ce que j'appelle le 1 plus 1 plus 1. Ça va même jusqu'à la déclaration des droits de l'enfant, récente, qui ne supprime pas l'autorité des parents sur l'enfant, mais qui met l'enfant en position de dire « moi, j'ai des droits individualisés ». Donc, on arrive, et c'est ce que pressentait, c'est ce que refuse clairement le livre 3 de Rousseau, ce que pressent merveilleusement Tocqueville, c'est que le modèle démocratique va envahir l'espace familial. Et chacun va être dans le 1 plus 1 plus 1. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et surtout pour moi, elle ne s'arrête pas là. Car, précisément, une fois qu'on a obtenu les droits de tous les individus de 1 plus 1 plus 1, juste un autre rappel factuel simple, ce fameux droit de la Révolution de 1792, de divorcer par consentement mutuel, qui est rebarré par de Bonald tout de suite, ne reviendra dans sa réalité absolue qu'en 1975. Il faut bien 2 siècles pour qu'on connaisse que c'est l'autonomie de la volonté d'un individu qui est première si on veut défaire ce qui a été uni. Donc, on est, je crois, à la fin du XXe siècle, mais juste précisément on est au XXIe maintenant, dans cette représentation de tous les droits. Un commentaire avant de dire que ça ne suffit pas, c'est que c'est une inversion du modèle. Vous aviez, dans le double gouvernement de l'ancien régime, donc patriarcal, la conséquence était bonne du père au roi. C'était la représentation de l'image du père qui permettait aussi la représentation de l'image du roi. Dans le système démocratique, c'est le modèle démocratique extérieur, politique, qui donne le modèle de ce qui peut se passer dans l'espace domestique. Et c'est pourquoi je fais de la figure du Pax la figure ultime de cette demande de reconnaissance individuelle de droit à contracter et à contracter un lien. Alors, me direz-vous à la solidarité. J'avais intitulé mon petit papier pour aujourd'hui, non pas contrat et solidarité, mais au pluriel contrats et gouvernements. La question est la suivante. L'espace politique comme l'espace domestique ne sont pas, ça marche pas, ça vient d'être dit par les deux intervenants précédents, ça marche pas. On va pas simplement rajouter un petit élément de solidarité sur une fabrique du contrat qui est par définition égalitaire. C'est là peut-être où la question du politique intervient. La question du politique qui est multiple, la question du politique, c'est la question du pouvoir, c'est la question de la résistance au pouvoir, c'est la question de l'autorité, c'est la question de l'organisation des individus contractants. Et ce mot de gouvernement, qui a été jeté comme comparaison par la fin de l'Ancien Régime et la fondation de notre démocratie république, peut-être que ce mot de gouvernement a un sens assez intéressant. Si vous le prenez évidemment du point de vue, c'est peut-être là que se joue la possibilité d'un mot que j'attendais depuis ce matin, parce que je sais qu'il est dans les textes, qui est le mot de l'égalité, qui était le mot d'hier, mais qui est aussi le mot d'aujourd'hui. Hein, si on contracte, et c'est pour la raison d'une égalité possible, souhaitable, voulue, égalité des chances et égalité des résultats. Peut-être par l'image du gouvernement, et y compris dans l'espace public, qu'on pourrait repenser aujourd'hui. Ce qui vient à l'esprit, c'est que c'est un lieu de débat aussi, quand on gouverne. C'est un lieu de décision, prise de décision, on dit dans le langage européen. C'est un mot affreux, ils sont tous comme ça. Mais prise de décision, c'est là où on débat avant de décider et avant d'exercer l'autorité. Ça ne nous empêchera pas d'avoir de l'autorité sur les enfants, mais ça permettra peut-être aussi, dans cet enjeu que j'ai moi, bien entendu, et qui a été rappelé tout à l'heure, dans cet enjeu de penser l'égalité des sexes, parce que, bien sûr, il y a aussi des causes. Il y a le mot domination qu'il faut jeter aussi dans notre débat de ce matin. Il y a des inégalités, elles se produisent aussi par des rapports de domination et des rapports de pouvoir qui sont des rapports de privilège. Si on veut que la question des sexes, pour faire de la parité, il faut aussi faire du débat domestique pour que l'organisation domestique se passe peut-être pas de façon naturelle en partage des rôles, ce langage des années 60 terrible, de partage des fonctions et des rôles. Mais si on reprenait Montesquieu et ses prédécesseurs du côté du mot gouvernement, qu'au fond quelque chose se décide du pouvoir et s'exerce ensemble, alors peut-être la circulation entre les deux gouvernements serait différente. Voilà, famille et cité peut-être comme deux gouvernements qui se jouent ensemble. Et puis l'idée que l'impasse de la solidarité est effective, puisqu'il faut, je crois, reprendre politiquement cette affaire d'individus autonomes et contractants. Et évidemment, je terminerai pour dire simplement que la question, ça serait peut-être un petit différent que j'aurai avec mon voisin, la question du problème social est un problème, est une affaire aussi sexuée. C'est une affaire sexuée parce qu'on sait très bien que dans ce système de dépendance, dans jadis l'accès à la propriété de soi est une affaire complètement différente pour les deux sexes, juridiquement et socialement parlant. Aujourd'hui, la façon dont on a défait les solidarités, détruit les solidarités par des flexibilités dont à l'Europe je peux mesurer à quel point elles avancent, sont renserrées dans bien des domaines, cette notion de déstructuration des solidarités, elle est aussi extrêmement sexuée, profondément sexuée, dans la pauvreté, dans les systèmes de dépendance, qu'ils soient familiaux ou dans l'espace civil. C'est assez frappant de reprendre les choses du point de vue de la pauvreté féminine, dont je vous rappelle que 80% des salaires et des très bas salaires sont féminins dans notre société aujourd'hui.
Merci madame. Pour terminer ces exposés, Claudine Haroche. Claudine Haroche est docteur d'état en sociologie et directeur de recherche au CNRS. Elle a régulièrement donné des cours à l'université de Campinas au Brésil et animé des séminaires à l'école des hautes études en sciences sociales. Depuis plusieurs années, elle mène des recherches de sociologie et d'anthropologie politique sur les corps individuels et les corps politiques dans les institutions politiques et juridiques. Elle travaille aussi sur la codification et la légifération des sentiments dans les sociétés contemporaines. Elle a entrepris récemment des recherches sur les processus d'individualisation dans les sociétés démocratiques. Dans un dialogue avec Robert Castel, publié l'an dernier chez Fayard, elle a cherché dans l'histoire longue de la constitution de l'individu la clé pour comprendre certains aspects de la crise sociale actuelle. Claudine Haroche est l'auteur et le co-auteur de nombreux articles et ouvrages, dont Le droit à la considération, Le harcèlement, une question sensible, La dignité, un bien sans prix et Les paradoxes de l'égalité. Madame Haroche.
Merci. Peut-on parler d'institutions et de fonctionnement démocratique sans évoquer les comportements et les sentiments ? Ne faut-il pas s'interroger sur la façon dont ils nous engagent et nous attachent ? Ne nous permet-il pas de trouver du sens à ce que nous faisons et ce que nous sommes ? Puisque contrat il y aurait, que peut signifier un engagement neutre ? Un engagement qui n'engage pas, un engagement dont les termes sont troubles et imprécis. Que veut dire contrat dans une société où des individus se trouvent contraints de passer des contrats dont souvent ils ne saisissent ni la portée ni la finalité, placés comme ils le sont dans des conditions où ils ne peuvent qu'accepter le contrat. Est-il possible alors de négliger les dimensions psychiques, affectives dans ces rapports? Je crois intéressant de creuser la part de subjectivité, de sentiment dans le contrat et la solidarité sociale. Il y a, dans les formes inédites et insidieuses de contrat, des affects dont la nature demande à être précisée. Alain Supiot avait relevé l'émergence d'un nouveau type de contrat, dont l'objet premier n'est pas d'échanger des biens déterminés, ni de sceller une alliance entre égaux, mais d'organiser l'exercice d'un pouvoir. Il signalait qu'à l'échange et à l'alliance, le droit des contrats ajoute désormais l'allégeance. Ces contrats, soulignait-il, prennent à revers le droit du travail et le droit de la responsabilité et ouvrent la voie à des formes inédites de pouvoir sur les hommes. En fait, ces formes de contrats, tout en respectant formellement à la lettre les principes démocratiques, y portent insidieusement atteinte. Exposant des liens d'allégeance, ils sont institués par une ignorance des formes et des distances inhérentes à tout échange contractuel. Ils modifient la qualité des relations sociales. Ce sont la nature et les formes prises par cet insidieux qu'il me semble décisif d'essayer d'approfondir. Zimmel avait ainsi remarqué au début du siècle que l'aspect sous lequel se présentent les faits touchant à la gratitude, celui du sentir personnel et de l'agir privé, masque l'importance énorme que revêtent ces faits dans leur action sur la vie et la cohésion de la société. Pour lui, la gratitude relève de relations pour lesquelles la forme juridique n'intervient pas. Elle est un complément à l'ordre juridique. Ainsi, nous devrions revenir, je pense, en amont du contrat, en analysant la qualité des liens psychiques et affectifs entre les individus. Car l'oubli, voire le discrédit de la gratitude, provoque une désagrégation de la société. Cette approche nous permet, me semble-t-il, de saisir le rapport entre le contrat, les liens que les individus tissent entre eux et la solidarité sociale. Il est alors nécessaire de distinguer le sentiment de gratitude qui est indissociable de l'exercice des formes dans les liens sociaux, du sentiment d'allégeance qui ignore les formes protectrices du privé et de l'intime en chaque individu. En effet, le sentiment de gratitude ne met pas en cause les principes de liberté et d'égalité, alors que le sentiment d'allégeance implique la soumission et au-delà, la servitude par le biais de rapprochements qui autorisent des formes de domination sans limite. On peut alors comprendre le rôle crucial des formes et des manières rôle sur lequel avait longuement insisté Tocqueville, après bien des hésitations. Les formes et les manières qui, voilant le privé, protégeant le soi, permettent le lien social en le distinguant de cette autre composante du formel qui rend l'individu interchangeable. Ces contrats inédits impliquent un certain désengagement vis-à-vis du collectif. Les manifestations de sentiments d'allégeance vis-à-vis d'un individu ou d'un groupe supposent une attitude de passivité, d'inertie, voire de résignation. Ces contrats contribueraient à instaurer des relations formelles, vidées de toute substance, de tout contenu, vides de sens, donc. Le déclin des formes, de ce qu'on appelle tantôt civilité ou politesse, tantôt courtoisie ou urbanité, leur dévoiement même par un excès de formel, le progrès de l'informel, sont désormais au cœur d'interrogations fondamentales sur les sociétés démocratiques occidentales. Il s'agirait pour nous de retracer... Il s'agirait pour nous de retracer la genèse complexe des modèles de comportement et de sentiment pour percevoir, au travers des manières et des formes, des changements profonds, émancipateurs certainement, mais parfois aussi déconcertants, voire menaçants, dans le rapport à soi et aux autres. Elias avait souligné l'importance des comportements même les plus individuels, remarquant que l'un des cas les plus incroyables de le rationalisme anhistorique au XXe siècle s'est manifesté dans le fait que les gens ont cru, ce qu'un grand nombre croit encore, qu'une démocratisation des comportements, des croyances et des convictions suivrait tout naturellement la mise en place d'institutions démocratiques parlementaires. Le déclin des formes constitue une des questions majeures du politique, l'étiolement de la représentation démocratique, l'affaiblissement des médiations, laissant face à face, faible et fort, individus sans place et individus en place. Le déclin des formes, le progrès de l'informel, la montée de l'insignifiance dont parlait Castoriadis peuvent nous aider à élucider la face sombre des processus d'individualisation dans les sociétés démocratiques contemporaines. Mais on entre ici dans une zone difficile, extraordinairement difficile à appréhender, à la limite de l'intangible. Ces objets, parfois indiscernables, ces signes, souvent insignifiants, rappellent entre autres ce que Freud traduisait par malaise. Il faut alors cerner l'informel, ses modes de fonctionnement, le type de rapport qu'il tend à instaurer, encourager et maintenir, supposant des codes, des rapports de domination, d'allégeance, de soumission, de servitude, il est parfois beaucoup plus insidieux et violent que le formel. Il a un côté insaisissable. L'informel n'est pas le contraire des formes, la seule absence de forme et de distance. Il peut révéler un rejet radical de la substance et de la fonction des formes comme distance et protection entre individus. Une certaine violence s'instaurant dans un face-à-face et un corps-à-corps voulu ou subi. L'un des aspects essentiels de l'informel est le mélange des registres, des genres et des niveaux. Il consiste à brouiller, à confondre les espaces privés et publics, ouvrant à une emprise diffuse et profonde, décourageant toute velléité de résistance des individus devant des phénomènes de personnalisation. L'informel est étroitement lié à la psychologisation générale de la société. Il en apparaît même comme une des conséquences inéluctables. Le formel et l'informel désignent et relèvent d'une imbrication équivoque et perverse des espaces publics, privés, intimes. Dans le registre démocratique, les formes, conditions de l'intégrité psychique et morale, permettent seules, Tocqueville l'avait bien rappelé, la constitution et de l'espace privé et de l'espace public. Dès lors, comment tenir compte de comportements et de sentiments moraux, tels que la reconnaissance, la considération, le respect, l'estime de soi, la dignité? Ou bien encore, jusqu'à quel point est-il envisageable de les ignorer, voire de les nier, sans remettre en cause une société démocratique? C'est là sans doute l'un des problèmes cruciaux que l'on rencontre dans les formes d'individualisme contemporain, car la démocratie a intentionnellement ou structurellement conduit à penser les sentiments, les subjectivités, comme ne pouvant relever du champ politique, en effaçant la distinction entre solidarité et fraternité, sentiments qui ont accompagné la formation des sociétés démocratiques. La qualité des relations sociales ne s'est-elle pas transformée ? Nous abordons là l'une des interrogations majeures du politique, me semble-t-il, une des questions les plus controversées, une des questions les plus menacées et d'une certaine façon aussi les plus menaçantes. Elle nous oblige à repenser l'éducation de la conscience critique et plus largement la formation, la construction et la destruction parfois de nos identités psychiques. Merci.
Bien, alors je ne vais pas profiter de mon privilège de modérateur pour et je vais tout de suite vous donner la parole. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Si M. Michaud me confirme, on a une vingtaine de minutes pour le débat. Oui, monsieur.
J'ai une question pour Jean-Fabien Spitz. En l'écoutant, j'étais à la fois effrayé et aussi un peu amusé en imaginant cette figure du talentueux ou de la talentueuse qui s'accroche à ses dons et aux avantages qui en découlent. Il me semble qu'il ne faut quand même pas oublier que la structure de base de la société, c'est cela qui définit au fond ce qu'on peut faire de ses talents. Sans la société, un talent ne veut rien dire. Tout dépend des arrangements qui sont organisés pour faire des talents quelque chose qui sert à obtenir quelque chose. Et donc, je crois qu'il est un peu dangereux ou illusoire de poser la question en termes de qui possède les talents. Et je voulais, plutôt que d'engager la polémique, je voulais plutôt demander à Jean-Fabien Spitz si ce qu'il pensait de la théorie de Dworkin, qui est une approche assez différente. Au fond, Dworkin dit, certes, les gens, effectivement, doivent assumer la responsabilité pour leurs préférences, leurs buts dans la vie. En ce qui concerne les talents, c'est tout à fait autre chose. Si on a un don, c'est pas quelque chose qui est absolument interne au but de la vie, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre du moyen. Et donc, d'une certaine manière, c'est extérieur par rapport aux objectifs de l'individu. Et donc, ce qu'on va dire aux gens talentueux, c'est très bien, vous avez certains objectifs, c'est votre affaire, vous avez des dons, vous avez déjà cela, on va considérer que ce sont des ressources internes dont vous disposez déjà. Et dans la répartition des ressources externes, des ressources matérielles ordinaires, on va en tenir compte, c'est-à-dire qu'on va vous en donner un peu moins. Et on ne va pas remettre en cause la propriété personnelle des dons. Vous possédez vos dons, mais ça justifie qu'on vous donne un peu moins d'aide matérielle externe.
Oui, je voudrais répondre sur le premier point. Je crois que c'est un point de départ. C'est une image assez naïve de l'individu attaché à ses dons. Mais en même temps, ça a une certaine vertu philosophique, à mon avis. C'est-à-dire que la question est de savoir si l'on part des individus pour aller vers le contrat ou bien si, effectivement, on envisage ce que l'on peut appeler une théorie structurelle de la justice. Alors, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est-à-dire que l'idée de détacher un individu propriétaire de ses dons, de la structure qui en permet la mise en œuvre, est naïve et philosophiquement aberrante, mais en même temps, elle permet de poser le problème de la validité d'une structure, c'est-à-dire de la validité d'une structure comme objet de contrat, et en particulier face à des objections qui prétendraient, car elles existent, que les individus disposent de droits absolument intangibles, en particulier sur leur personne, sont propriétaires de leur personne d'une façon intangible, ce qui existe dans la polémique philosophique actuelle et qui donne des arguments auxquels il faut pouvoir répondre. Et c'est pas toujours très simple. Ça pour la première partie de votre question. Pour la seconde partie de votre question, j'avoue être très dubitatif sur la possibilité de faire cette ligne de partage extrêmement stricte entre la personne et les moyens dont elle dispose, si l'on veut inclure dans les moyens dont dispose la personne les talents dont elle est pourvue. Je pense que c'est une distinction qui, sur le papier, est claire, bien sûr, c'est-à-dire que les ressources, quelles qu'elles soient matérielles ou intellectuelles, ou plus largement, qu'elles incluent l'énergie, le sens du travail, la capacité à déployer beaucoup d'activités et de dynamisme. Ça me paraît très difficile de faire la distinction entre la personne et les talents. Je pense que les talents en question conditionnent la façon dont les objectifs sont définis. La différence est très difficile à faire, et c'est pour ça, il me semble qu'il faudrait évoluer vers une théorie qui ne s'appuie pas d'une façon aussi rigide comme le fait Dworkin sur la différence entre contexte et personne, en incluant les talents dans le domaine des ressources qui donc pourraient faire l'objet d'une compensation. Ça me paraît une aventure philosophique assez improbable, mais on verra bien.
Oui, Miroslav Radman, pardon.
D'abord, monsieur, ensuite.
Vous voyez,
monsieur. 5, généticien et professeur à la faculté de médecine. J'ai trouvé très intéressant, monsieur Spitz, votre discours, surtout parce que je le vois un peu comme généticien dans le contexte de la biodiversité humaine. Et démocratie est dans un sens un exercice de la gestion de la diversité des individus, diversité humaine. Et vous avez parlé, quoi qu'on mesure dans nos capacités physiques, musculaires ou intellectuelles, et on trouve cette courbe en cloche, n'est-ce pas, la distribution quasi gaussienne de nos capacités. Vous avez parlé des extrêmes, disons, droites, des gens qui ont plus de talent que l'autre, des talents multiples, j'imagine, pas, on n'a pas besoin de les spécifier. Mais je crois qu'il faut le lier aussi avec l'autre extrême. Comment on gère les handicaps, comment on gère le destin des gens qui sont nés à cause de cette biodiversité, qui est résultat des mutations aveugles, parce que il n'y a aucune évidence d'un grand cerveau lamarckien qui prévoit le futur et dit, voilà, il faut changer génétiquement dans ce sens-là. Donc la diversité est le résultat du hasard des mutations, et cette courbe en cloche en résulte. On a souvent discuté, trop souvent, combien ça coûte à la société la partie gauche de la distribution, qui est donc les handicaps physiques, mentaux, etc. Et je suis très content que vous parlez d'autres extrêmes. Et je crois que aussi peu sont coupables ceux qui sont nés handicapés génétiques d'une façon ou autre, que sont qui ont mérite ceux qui ont les talents de l'autre côté. Et je crois que la société doit jouer à compenser cela. En effet, dans un sens, je trouve que les gens nés handicapés payent individuellement le prix de la diversité humaine qui est précieuse, qui nous permet de nous adapter dans le futur incertain. Et au lieu d'avoir ces discussions minables, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là, combien ça coûte, moi je donnerais à la naissance Légion d'honneur et toutes les médailles, parce que par leur malheur qu'ils vont vivre l'handicap, ils payent le prix individuel de cette diversité. Et je crois qu'il était, peut-être il est intéressant de lier la justesse de compensation de ce qu'ils vont surproduire, les talents, d'un côté de la courbe gaussienne, et que ça doit bien sûr compenser l'handicap de ceux qui payent le prix de cette diversité.
Oui, si je peux dire un mot là-dessus, je pense qu'il y a une tendance dans les réflexions contemporaines sur l'égalité, justement, à traiter sur un même plan le problème des talents et le problème des handicaps, c'est-à-dire qu'au fond, le défaut d'énergie ou le défaut d'une intelligence supérieure serait à mettre sur le même plan que le handicap physique, et donc ouvrirait un droit à la compensation. Je ne suis pas sûr que cette idée soit susceptible d'être poursuivie jusqu'à son terme, c'est-à-dire que traiter le défaut de talent comme un handicap soit quelque chose qui soit socialement viable. Il y a une autre observation que je voudrais faire sur les talents, la répartition naturelle des talents, pour rejoindre aussi l'observation de Marc Fleurbet tout à l'heure. Il n'y a pas de répartition naturelle des talents, au sens où les sociétés privilégient certains
talents et pas d'autres. Donc certains talents se trouvent valorisés. Il y a tout un jeu sur les qualités naturelles que les individus possèdent et dont les structures sociales récompensent certaines, n'en récompensent pas d'autres. Certains talents sont stériles et ne procurent pas davantage. Donc l'idée d'une répartition naturelle des talents est elle aussi assez difficile à admettre.
Mais même si on ne réussit pas d'une façon administrative et technocrate à résoudre, concrétiser les choses que vous discutez, parce que c'est difficile bien sûr, je crois que déjà d'avoir un départ culturel, que la diversité humaine, on doit la voir et nourrir par un discours horizontal, par des relations horizontales dans ces diversités. Nous sommes trop habitués de penser, de se comporter en vertical, avec des pyramides de pouvoir et de décider ce qui est bon, ce qui est mauvais, etc. Qui le sait si la grande obscurité arrive, c'est les aveugles qui vont nous prendre par la main, vous et moi, et conduire. On ne sait même pas comment on ne peut pas prédire le futur. On ne sait pas quelle est la vertu. Il n'y a pas de vertu universelle. Et je vais terminer seulement que même en termes comment le généticien moléculaire regarde aujourd'hui la diversité. Il y a un soutien à ce que vous dites. Darwin disait la survie des plus aptes, qui Moore a dit la survie des plus chanceux. Il y a un grand casino de gènes et le patrimoine génétique, et il faut, je termine, et le patrimoine génétique, d'aujourd'hui on le sait par les méthodes moléculaires, il est parti du continent le plus pauvre. Il est parti il y a 200 ans de l'Afrique. Et je suis d'accord avec vous, en effet, qu'il faut réfléchir non pas seulement l'individu talentueux et la société, et même les sociétés, les pays. Ça ne fait aucun sens. Dans ce grand jeu de la diversité génétique, en effet, le monde est une unité et le départ est de là où les gens sont le plus pauvres, le plus malheureux, le plus malades, l'Afrique.
Merci, monsieur. Alors, pardonnez, madame, mon manque de courtoisie, mais je regarde insuffisamment vers la droite.
Oui, je ne vais pas revenir sur la question des talents, encore que le mot talent, en fait, s'évalue différemment selon les contextes, selon les sociétés, selon les époques. Il faut savoir à quel talent vous faites référence. Et j'ai un peu de mal à penser les talents dans le marché, de considérer que les talents soient égaux à des ressources. Moi, je parlerai plutôt de vertus, les talents et vertus, et je rappellerai quand même que l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme dit que les distinctions sociales ne sont fondées que sur l'utilité commune et que l'article 6 fait bien marquer que les distinctions entre les citoyens selon les vertus et les talents. Bon, cette référence révolutionnaire qui ne passe pas les formes me laisse un peu, je dirais, sceptique face à une idée comme quoi la solidarité mènerait à une impasse. Car ainsi que l'a rappelé, et là je suis parfaitement d'accord avec M. Castel, c'est qu'en fait la question du lien collectif et la question même du lien social, elle se reporte effectivement sur une notion de solidarité, quels que soient en fait les champs, solidarité sociale, solidarité de classe. Et cette solidarité, je ne pense pas qu'elle soit servie directement par la contractualisation à l'outrance entre les individus ou entre les organisations. Car s'il faut penser le collectif, et là j'adresse ces questions aux trois intervenants, s'il faut penser le collectif, s'il faut penser l'intérêt général et non pas seulement les intérêts particuliers qui se rencontreraient, je me pose la question de savoir si finalement, à force de vouloir tout individualiser, on ne tire pas les talents vers la médiocrité. Car au fond, il ne faut pas oublier que les talents font peur, qui font peur à ceux qui ont moins de talent et que les formes aidantes, conformisme ambiant, on a tendance au contraire à étouffer les talents et à ne pas les reconnaître quand on veut être dans une société totalement individualisée. Le déclin des formes dont parlait Claudine Haroche justement me fait montrer à quel point une certaine, je dirais, attitude de complaisance parfois fait que, bon ben, on reconnaît le talent que lorsque cela nous arrange, car qui reconnaît le talent sinon celui qui a le pouvoir. Or, en dehors de ça, je ne pense pas qu'en fait le talent tel qu'il est compris ainsi puisse servir des notions de solidarité, que ce soit en fait des notions de solidarité sociale ou autre, car les talents s'est effectivement mis à portée de tous, chacun ayant ses talents et l'on partage ses talents comme on partage les savoirs. Donc c'est justement ce partage qui fait la communauté, c'est le partage en fait qui fait ce lien social fondamental. En dehors de ça, je me pose une question et je vais poser deux questions. Première question à Geneviève Fraisse, qui parlait en fait du Pax, la question des femmes, et à un moment, je me suis dit quand même, au niveau social, il y a eu un long débat qui m'a énormément inquiétée sur la notion des solidarités familiales, qui remettait en fait, et ça quand même, ces solidarités familiales qui, dans le secteur social, faisaient en sorte donc que l'on faisait que la famille serait indéfiniment en fait responsable, débitrice, etc., des autres. Ça, c'est pour Geneviève Fraisse. La deuxième question, c'est aussi pour Claudine Haroche, lorsqu'elle rencontre justement et de ces questions du déclin des formes et des manières, et je me dirais surtout comment, avec ce déclin des formes et des manières, comment résister à ce déclin, et comment donc la conscience critique qui est fondamentale pour éviter effectivement d'être toujours dans la pensée dominante, comment la conscience critique, comment l'éduquer dans ce sens-là sans perdre le sens des formes et des manières, car quand on est contestataire, je reconnais que parfois les formes, c'est difficile à les suivre.
Merci, madame. Alors, madame Fraisse.
Oui, je crois avoir évité justement la question des solidarités familiales, qui n'était pas du tout l'enjeu de... Mais je vous remercie, Geneviève Koubi, d'avoir posé la question, qui n'était pas du tout l'enjeu de mon propos. L'enjeu de mon propos, c'est de dire, on est arrivé à terme de la production de l'individuation des droits. C'est ce que j'appelle le 1 plus 1 plus 1 plus 1. J'ai rien contre le 1 plus 1 plus 1 plus 1. Dans l'espace, dans la société domestique, comme dans la société civile et politique. Je pense que c'est un acquis, et en tout cas ça a été un combat politique qu'on connaît. Maintenant, au-delà, une fois qu'on est dans le 1 plus 1 plus 1, on n'a pas fabriqué de bons gouvernements, d'une part, ni, puisque les inégalités perdurent, etc., ni de bonne circulation, et c'était un peu le sens de ma question sur le gouvernement, de bonne circulation entre le gouvernement domestique et le gouvernement politique. Ma proposition, elle est plutôt de reprendre le terme de gouvernement, qui est un terme politique, pour dire qu'il y a des espaces, non pas où les 1 plus 1 plus 1 se tiendraient au chaud quand ils peuvent, notamment dans l'espace familial, si ça ne va pas bien en dehors de l'espace familial, mais de reconstruire des espaces qui sont ceux du débat et du gouvernement. Et que ça donne une autre vision, telle est ma proposition, de ce qu'on fait de la famille dans notre espace d'aujourd'hui. C'est pas seulement, est-ce un sujet de droite, est-ce un sujet de gauche, est-ce que c'est la cellule de base de la société, comme on disait. Non, ce sont deux structures gouvernementales, et si on les fait bouger ensemble, je pense que ça nous ouvre des portes qui ne seront pas seulement cette addition sociale des solidarités, mais où du politique sera évidemment au cœur de cette dynamique. Et si dynamique il y a pour moi, elle est du côté d'un plus d'égalité entre les êtres extérieurs et intérieurs à la famille.
Voilà, c'est... Merci. Madame Haroche.
Merci, Geneviève, pour ta question. En fait, elle est générale et compliquée. Je crois que c'est le sens dans lequel je travaille, et j'ai travaillé pour ce forum, c'est-à-dire j'ai fait un papier assez politique et je me suis efforcée de revenir aux notions de base pour formuler des questions à la démocratie, des questions ouvertes à la démocratie et sur la démocratie, dans la démocratie, mais des questions ouvertes. Et en réalité, il me semble que la question du développement de la conscience critique est absolument cruciale aujourd'hui dans une société de consommation, de production industrielle des biens culturels. Alors, bien entendu, je fais référence là aux travaux de Walter Benjamin dans les années 35-39 et aux travaux d'Adorno Horkheimer 47, qui n'étaient pas dans le même type de qui n'avaient pas développé leurs analyses dans le même type de société que les nôtres, mais qui, tout comme Tocqueville, apercevaient des éléments inquiétants, menaçants, c'est-à-dire le recul, la progression du conformisme, le consensus, qui est souvent un faux consensus et qui masque des choses très redoutables, des formes de déni, de refoulement, de ressentiment qui sont probablement, et c'est la raison pour laquelle je m'attache de façon tellement consistante à travailler et sur les comportements et sur les sentiments, parce que je pense que les sentiments, à l'inverse des émotions et des passions qui peuvent exploser, se dire de façon brutale ou joyeuse, les sentiments peuvent se déposer au plus profond de l'individu dans des cultures politiques au cours de plusieurs générations. Et là, je voudrais prendre un exemple. Par exemple, quand on songe à ce qui s'est passé après le traité de Versailles, tout le monde a toujours dit que les Allemands ont été humiliés d'une façon insupportable. Alors, bien entendu, on ne peut pas expliquer la montée du nazisme en Allemagne par les formes d'humiliation subies à la suite du traité de Versailles, mais c'est un élément qui n'est pas négligeable. Voilà. D'autre part, un autre point sur lequel les historiens seraient probablement assez d'accord, c'est qu'on travaille très rarement sur un élément, un des ressorts central, moteur de la Révolution française, c'est quand même la question du ressentiment, et qui a été très peu abordé par Mona Ozou, je crois, et Furet, si je me souviens bien. Voilà. Enfin, j'ai la conscience de ne pas avoir répondu à la conscience critique, de ne pas avoir répondu à ta question. Simplement, c'est là qu'est la lutte, je crois, parce qu'il y a une inégalité très forte dans l'accès au bien culturel et au savoir. Et on le voit bien dans toute une série de pays, de sociétés de masse, où on donne une éducation minimale, mais on fait très attention de ne pas donner une véritable éducation qui pourrait développer la conscience critique.
Merci, madame. Alors maintenant, question courte et réponse courte, s'il vous plaît, parce que...
Oui, Sylvie Vauclair, astrophysicienne, j'hésite presque à parler, après tous ces grands développements, ce que je vais dire est simple et court. Donc, je reviens à la question des talents, et je voulais dire que j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Monsieur Spitz. Mais je pense qu'il y a un point qui vient d'être un peu abordé, je pense, dans tout ce qui vient de se dire, mais ce n'est pas très clair pour moi, donc je voudrais le reformuler peut-être autrement. Pour pouvoir partager les talents, à mon avis, il ne faut pas seulement avoir des talents en soi. Enfin, on parle de gens qui ont des talents, de gens qui n'ont pas de talents, mais, ou qui en ont moins, mais je pense que la question du développement au départ de ces talents n'a pas été vraiment abordée. C'est-à-dire que pour avoir des talents quand on est adulte, il faut non seulement les avoir en soi, mais il faut avoir su les reconnaître, les accepter, les développer. Et ça, c'est une question d'éducation, et je voudrais poser la question de l'éducation de la toute petite enfance. Est-ce que notre société joue bien le rôle de reconnaissance et de développement des talents individuels? Et je pense donc que c'est un problème de l'éducation. Je suis, j'ai des exemples en fait. Bon, moi je suis professeur et je vois passer beaucoup de jeunes. J'ai des exemples de jeunes qui ont des talents et ces talents ont été laminés par l'éducation qu'ils ont eue au préalable. Et évidemment, heureusement pour eux, ceux que je vois ont des talents qui finissent par ressortir, qui sont suffisamment forts pour ressortir. Mais c'est un petit peu ce proverbe japonais de l'éducation, quand un clou dépasse, il faut l'enfoncer. Et je crois qu'il faut faire très attention dans la petite enfance d'aider à développer ses talents. Et c'est probablement un problème qui est plus féminin.
Votre question, madame, s'il vous plaît.
Oui, tout de suite. C'est un problème qui est plus. Je voudrais quand même commenter que je pense que c'est un problème qui.
Mais oui, mais vous ne laisserez pas la place aux autres intervenants qui souhaitent aussi poser des questions.
C'est un problème qui est plus féminin que masculin, parce que je crois que les femmes ont justement ce problème d'avoir eu des talents qui n'ont pas été développés parce que les gens autour d'eux doutaient de leur talent, donc elles en doutent elles-mêmes. Et je crois que ça a été un gros problème. Donc ma question, c'est ça. Est-ce que notre société joue bien le rôle de reconnaissance et de développement des talents individuels dans la petite enfance? Et c'est un problème d'éducation.
Mais moi, je suis pas du tout compétent en matière d'éducation de la petite enfance. Et une chose que simplement on peut faire remarquer, c'est que ce dont moi j'entendais parler, c'est très simplement, c'est que dans des ensembles sociaux, il y a des talents dont la mise en œuvre se matérialise sous forme d'avantages, donc qui sont encouragés dans l'éducation, puis qui sont porteurs d'avantages matériels, sonnants et trébuchants, tout simplement. C'est la question des avantages produits par les talents valorisés dans une forme sociale qui est en question uniquement. Le problème du développement de la personnalité n'était pas mon propos et surtout pas celui de l'éducation.
Merci. Madame ?
Ça marche ?
Oui, très bien.
Je voudrais revenir sur le même point autrement. D'abord, Monique David-Ménard, philosophe et psychanalyste. D'abord, je voudrais remercier les quatre intervenantes ce matin, parce que je trouve que vos quatre interventions disent très bien où on en est. La crise de la notion marxiste de solidarité, enfin issue du marxisme, la question de la différence des sexes, ce qu'on peut tirer politiquement de la psychanalyse, et puis le modèle libéral, fort bien illustré par vous. Et je dirais qu'on n'en est pas très loin, malgré le caractère très brillant de vos interventions. Alors, je demanderai à Jean-Fabien Spitz et aux autres intervenants, est-ce que nous pouvons croire à ce que vous avez illustré dans votre propos, à savoir, est-ce que nous pouvons croire comme avant à la différence du fait et du droit ? Il y avait quelque chose de brillant et de rhétorique dans votre propos, qui était cette invocation à l'état de droit. Hein, ce que nous voulons, c'est non pas partager nos destins, mais vivre dans le royaume du droit. Une kantienne comme moi, c'était vraiment le règne des fins. Bon, et c'est toujours intéressant de voir pour un philosophe ce qui fait évidence. Hein. Nous ne nous satisfons pas d'une simple coexistence. Nous voulons vivre dans le règne du droit, vous l'avez redit. Bon, je pense que, d'une certaine manière, évidemment, nous sommes tous heureux de vivre dans une société où la notion de sujet de droit veut dire quelque chose, et en un sens, de plus en plus, par rapport aux femmes, aux enfants. Bon. Et néanmoins, ce que je voudrais faire remarquer, c'est que nous ne croyons plus à cette évidence qui soutient la philosophie de la Révolution française. Nous ne croyons plus à cette rhétorique de l'inconditionné de la loi morale et politique opposée aux situations de fait. Et je trouve que c'est quelque chose que vous avez très très bien illustré, parce que précisément Claudine Haroche essaye de déterminer un certain registre de faits qu'elle appelle avec Montesquieu et Tocqueville les formes, qui invalide, enfin qui, quand il se défait, invalide la position de cet inconditionné du droit, de cet homme abstrait, qui donne lieu à des tas de débats intéressants à l'intérieur de son registre propre, mais dont on sait en même temps que ça ne mord pas sur des choses beaucoup plus élémentaires. Voilà. Alors je trouve que le débat de ce matin et vos interventions sont vraiment intéressantes de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, voilà. Alors, croyez-vous les uns et les autres à la distinction de la coexistence, de la simple coexistence, par rapport à une société de droit. Est-ce que c'est ça qui est au fondement de vos analyses ?
Madame Haroche ?
Je vais essayer de répondre à ce que vous, à votre intervention qui est extrêmement intéressante et brillante. Vous posez la question de savoir si on croit clairement à la distinction entre le fait et le droit. Alors, moi, je vais vous faire une réponse en deux temps. Je veux y croire, parce que je pense qu'il est indispensable d'avoir un certain nombre d'instances organisatrices du social qui structurent le social en profondeur, le droit, le politique, la société civile. Et que précisément, quand je parle du progrès de l'informel, de l'insidieux, de la psychologisation générale de la société, je crois que ce sont des choses, des progrès, disons, ou des choses extrêmement dangereuses. Alors, pour vous répondre, je vais prendre un exemple, un cas précis. Le cas du harcèlement, les législations en matière de harcèlement. En réalité, la question du harcèlement a mis très longtemps à être qualifiée en France, comme des tas d'autres questions, par exemple la question du viol, la question de l'inceste, etc. D'autres pays ont été beaucoup plus rapides pour s'ouvrir à ce genre de questions et en faire des questions sociales et politiques. Bon. La question du harcèlement pose, qui a été très longtemps ignorée, et maintenant fait l'objet de, de législation en matière de travail. Alors, je rappelle que la question du harcèlement, au début, a été considérée comme uniquement une question de sexuel, harcèlement sexuel, ce qui est ridicule, parce qu'en définitive, ça va beaucoup plus loin, et c'est la question du harcèlement moral et peut-être du harcèlement tout court, c'est-à-dire de la pression et du non-respect de la temporalité de l'individu jeté sur le marché. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, il faut en faire une question sociale et politique. Alors, si on prend les exemples de harcèlement, il est extrêmement difficile, quand quelqu'un dit avoir été harcelé, et là, j'ai fait un certain nombre d'enquêtes empiriques auprès de cabinets d'avocats, auprès de présidents d'universités américaines, par exemple, chez qui tout a commencé. Il est extrêmement difficile de savoir quand les gens s'ils ont été harcelés ou s'ils se sentent avoir été harcelés. C'est-à-dire que là, la question des sentiments et du droit se pose d'une façon extrêmement difficile à départager. Et alors, en faisant ces enquêtes auprès des cabinets d'avocats, je leur ai demandé, mais s'ils avaient énormément de plaintes de harcèlement, avec des plaintes plus ou moins développées, étayées, etc., ou bien entendu des deux côtés, et on le voit encore récemment dans une histoire qui a été publiée dans un grand quotidien il y a 2-3 jours, des gens qui disent des choses radicalement opposées. Alors, qui croire et quel type de preuves peut-on apporter? Et c'est vrai que c'est très difficile de trancher, et donc à ces avocats, à ce cabinet d'avocats de Los Angeles auprès de qui j'avais fait en particulier une enquête, sur 500 dossiers, ils m'avaient dit qu'ils étaient sûrs sur 5 qui avaient eu harcèlement. Sans ça, c'était impossible de savoir. Et c'est vrai que ce sont des plaintes qui se multiplient et qui renvoient, à mon avis, à autre chose, des formes de revendications individuelles qui sont liées à des formes de souffrance qu'on ne prenait pas du tout en cause jadis, et qui font que beaucoup d'ouvrages de sociologie, qui sont plus ou moins bons d'ailleurs, ont une telle écoute et un tel succès. Donc je crois que la question des sentiments est une question absolument cruciale.
Monsieur Spitz.
Oui, moi je voudrais dire que je trouve très inquiétant qu'on puisse poser la question de savoir si les uns et les autres nous croyons à la distinction du fait et du droit. Parce que je pense que c'est une distinction absolument capitale et qu'il convient d'y croire contre vents et marées. Pour répondre sur le fond, je pense que oui, je crois à la distinction entre le fait et le droit, c'est-à-dire je crois à un certain type de rapport social fondé sur la défiance, la crainte et la prudence, qui sont des rapports purement factuels vers lesquels les sociétés tendent. Les États-Unis, par exemple, sont une société dans laquelle la dépense privée de sécurité est maintenant plus importante que la dépense publique de sécurité. Bon, ce sont donc des sociétés de défiance où, par conséquent, le rapport d'obligation entre les citoyens se défait. Un des idéaux régulateurs de la démocratie, c'est d'échapper à ces rapports fondés sur la défiance. Et un des moyens d'échapper à ces rapports fondés sur la défiance, c'est d'arriver à une certaine forme d'égalité réelle des chances, de façon à ce qu'il y ait effectivement une république, c'est-à-dire une loi qui soit non seulement formellement la même pour tous, mais qui offre les chances identiques à tous et qui, par conséquent, permettent de vivre dans des rapports réciproques de légitimité et non pas dans des rapports de défiance.
Voilà. Mais la raison pour laquelle je crois... Le problème, c'est plutôt...
Vous madame,
qu'est-ce qui fait que des gens peuvent s'intéresser ensemble à la même chose qui n'est pas seulement eux? Pour comprendre comment réformer nos institutions?
Oui, c'est une vaste question. Écoutez, nous devons terminer. Il y reste deux questions sur la droite, là, monsieur, et puis madame, et nous devons terminer dans les 2 minutes qui suivent.
On a monsieur. Beaucoup évoqué la notion de partage. Je suis mathématicien, mon nom est Jean-Pierre Kahn. On a évoqué aussi la question des talents. Et je voudrais dire le paradoxe. On partage quand on mesure. Et ce qu'on mesure le mieux sur la Terre, on le partage mal. Et c'est le domaine du non-droit. Je parle des ressources naturelles. En ce qui concerne les ressources des activités humaines, Robert Castel en a parlé, c'est un domaine de droit qui est extrêmement controversé. En ce qui concerne le partage des talents ou de ce qui est lié aux talents, il y avait une identification partielle dans votre exposé, M. Spitz, entre talent, reconnaissance des talents, moyens donnés à l'épanouissement des talents, et richesse individuelle. Alors moi, je reviens, j'étais avant-hier dans la Silicon Valley. Ça aurait été très bien reçu, votre discours, dans la Silicon Valley. Mais le talent me paraît tout autre chose dans mon domaine de compétences, qui rejoint le domaine de compétences de notre collègue astrophysicienne. Le talent, ça ne se partage pas. Mais le talent est un moyen de communiquer avec les autres, de s'enrichir de leur talent. Et je vois dans la notion d'évaluation du talent, y compris l'évaluation sous la courbe gaussienne, qui ne veut rien dire, une sorte d'aberration du monde contemporain. On évalue sans cesse, au lieu de développer. Et l'éducation, mais l'éducation tout au cours de la vie, l'expérience de la vie scientifique, c'est que le talent n'est pas quelque chose qui est inné et qui se développe à partir de l'inné, c'est quelque chose qui est une création collective constante.
Merci, monsieur, madame.
J'aurais voulu, mais je crois qu'on n'aura pas le temps, que Claudine Haroche nous développe un peu ce qu'elle entend par conscience, l'éducation de la conscience critique. Parce que ce qui m'étonne énormément, c'est qu'en fait, beaucoup de gens ne sont incapables d'admiration. C'est-à-dire que quand ils se trouvent face à quelqu'un qui est vraiment doué, et ça existe, ils sont dans un processus d'envie. Et moi, je me demande justement si l'éducation de la conscience critique ne pourrait pas, en quelque sorte, permettre de dépasser ces deux affects.
Oui, je voudrais juste dire un mot pour souscrire absolument à ce que vous dites, puisque mon propos était justement d'essayer de montrer que les talents ne peuvent pas être considérés comme une ressource exploitable au sens économique du terme, et que l'idée de partager de façon comptable les talents des individus est une idée qui est suspecte. Donc je partage tout à fait cette idée. Les talents ne sont pas une ressource comptable, je suis absolument d'accord.
Très bien, on va arrêter là, merci. On a déjà débordé le... Vous souhaitez qu'on... Alors écoutez, une dernière question avec l'autorisation de M. Michaud. Alors, allez-y. Pardon.
On entend là ?
Oui. Oui, très bien.
C'est juste pour revenir sur ce qui a été dit concernant l'éducation, parce qu'effectivement...
Ah oui, pardon, la question Mme Haroche.
Pardon, excusez-moi.
Non, c'est de ma faute.
Non, excusez-moi. Bon, je ne vais pas pouvoir répondre longuement à votre question, d'abord parce que je comprends qu'on a très peu de temps, comme M. Pillet vient de nous le rappeler. Vous m'avez posé la question du développement de la conscience critique. La conscience... Je ne la poserai pas par rapport à l'admiration et par rapport à l'envie. C'est-à-dire que je crois que le développement de la conscience critique implique un certain développement du rapport réflexif à soi, et rapport réflexif d'ailleurs dont on a parlé pour la démocratie en général, donc de la qualité du rapport à soi. Et je ne vois pas, je ne pense pas qu'elle puisse interdire ou encourager l'admiration. Je crois qu'elle écarte la soumission et l'allégeance et la mythification. Mais par contre, l'admiration et le choix de modèle est quelque chose de très important. Alors par contre, l'envie, ça nous entraînerait beaucoup trop loin. Bon. Enfin, je crois que c'est essayer de penser à la fois l'égalité et la liberté par rapport au rapport à soi, dans le développement du rapport à soi et de la créativité de chacun. Voilà.
Merci. Alors, monsieur, à vous la dernière question.
Merci. Alain Sexigue, instituteur et membre du cabinet de Jack Lang au ministère de l'Éducation nationale. J'ai été heureux que madame intervienne pour dire qu'on n'avait pas tellement abordé la question de l'éducation, parce que je trouvais effectivement que ça méritait d'être abordé. Mais je ne pensais pas que ce serait fait sous la forme de cette pique qui nous est adressée là. Quand un clou dépasse, il faut l'enfoncer. Après tout, si des talents finissent par réémerger, c'est peut-être que précisément on les a pas totalement éradiqués. Je pense qu'il doit être possible et qu'il est possible de conjuguer à l'école
l'expression et le développement des talents individuels. Ah ben je suis à contresens, là, madame, je vous vois réagir. Vous, ben oui, il me semble que j'ai bien compris. Bon, je crois qu'il doit être possible, et qu'il est possible aujourd'hui, nous ne cessons de le dire, de conjuguer à l'école l'expression et le développement des talents individuels et la formation de la conscience collective. Mais sans doute, cette gestion a été rendue, cette conjugaison, si vous voulez, il faut s'en rendre compte, a été rendue plus difficile ces dernières années par la critique radicale à laquelle nous avons assisté dans les années 60-70 de la sélection, par exemple. Les mêmes qui, des années après, ont couru après toutes les distinctions, n'ont cessé de railler la sélection, n'ont cessé de railler, par exemple, la distribution des prix et fini par obtenir sa suppression. Qu'est-ce qu'on a gagné à ça? Il faut s'interroger. Et je crois que j'ai assisté personnellement, j'ai eu une expérience concrète d'un moment qui m'en a beaucoup appris là-dessus. Lors d'une fête de fin d'année, nous avions décidé que des élèves diraient des contes sur scène. Une institutrice en classe avait décidé que tous les élèves de sa classe diraient l'histoire ensemble, les uns après les autres. Il se passait le micro et chacun disait un moment. Et puis dans l'autre classe, tout le monde, les élèves et l'institutrice, avaient décidé que le meilleur d'entre eux, celui qui avait dit son histoire pendant la préparation de la manière la plus merveilleuse qui soit, eh bien ce serait lui qui représenterait toute la classe. Eh bien, la ferveur collective était autour de celui qui disait, seul, là on assistait à un moment de talent partagé, alors que justement, avec l'autre système qui avait été retenu, on assistait à quelque chose de très haché, qui ne donnait absolument pas l'impression de quelque chose qui rassemblait de commun. Il y avait au contraire de l'ennui qui pouvait percer. Voilà.
Merci monsieur. Merci et merci à la table ronde et aux intervenants. Merci.